Y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Et les cadres sociaux, il y a la France moyenne, de Brest à Cayenne, il y a les sans-papiers, les sans sous les sans sur les sans pitié, il y a les femmes seules et les prisonniers, il y a les infirmières et les gars du chantier, il y a les ouf, les oives, les toqués toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici bas, où il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme Villefranche et les Casvilles.
Bonjour, c'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Alors je vous rappelle également que cette émission est diffusée sur Radio Larzac. Alors aujourd'hui, nous abordons la question de la transition écologique, du développement durable, de la préservation de la planète et bien entendu de nos droits, des droits de l'homme. Autant de sujets qui suscitent bien des questions, des controverses même. Pourtant, n'est-ce pas notre avenir et celui des générations futures qui se jouent dans notre capacité à engager rapidement les changements nécessaires. Le passage à l'acte est difficile pour nos politiques comme pour nos concitoyens. C'est certainement parce que ces changements remettent en cause les fondements mêmes de la société d'abondance et de consommation dans laquelle nous vivons, où nous avons vécu depuis un siècle environ, les fondements de notre société occidentale. Alors, entre déni et impuissance, on a souvent l'impression d'un recul perpétuel, que ce soit sur le climat, la biodiversité, l'encadrement des activités des entreprises transnationales, toutes ces questions, notamment dans les pays en voie de développement. Alors, pour débattre de ces questions, nous accueillons aujourd'hui Jean-Louis Galzin, qui est membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme et dont le nom est bien connu à Villefranche puisqu'il a des origines villefranchoises et qu'il est le fils de Georges Galzin qui était un militant de la Ligue des droits de l'homme et une personnalité très connue dans le Villefranchois. Alors bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Merci d'être venu. Et je rappelle également que tu étais cette semaine à Villefranche pour une conférence sur ce thème-là à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme. Alors après, nous reparlerons avec Jean-Louis tout à l'heure, mais nous allons maintenant faire une petite pause musicale. Et après cette pause musicale, nous entendrons Léa, une élève du lycée Raymond Savignac, qui lance un fervent appel à réveiller nos concitoyens dans une plaidoirie intitulée « Soleil vert ». Alors, je dois rappeler que ces plaidoiries avaient été préparées par les élèves de seconde du lycée Raymond Savignac dans le cadre des plaidoiries pour le mémorial de Caen et dans le cadre du concours d'éloquence organisée par le Conseil régional. Et cette année, le thème de ce concours d'éloquence était justement les questions d'écologie, de préservation de la planète, etc. Bon, et maintenant, place à la musique. Mickey 3D avec Respire. On est dans le vif du sujet.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
La Terre, que l'on surnomme aussi planète bleue, grâce à l'eau qui en recouvre pratiquement toute la surface, est si belle, si riche de son sol, de ses couleurs, de sa diversité. Notre planète a vu naître la vie et a su avec sagesse la conserver et la développer. La développer grâce à la fertilité de son sol, la pureté de son eau et la qualité de son air qui sont aujourd'hui malheureusement très menacés par l'homme. Et oui, la Terre est un être vivant, comme l'affirme l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de la Terre. Un être vivant en voie de destruction. Il y a 5300 ans, les chasseurs-cueilleurs vivaient en équilibre avec leur environnement. Mais notre civilisation industrielle, qui n'existe que depuis un peu plus de 200 ans, a déjà épuisé les ressources de la faune et de la flore de cette terre nourricière qui se transforme petit à petit en une exploitation agricole géante. Ai-je besoin de vous parler de ce poumon de la planète qu'est l'Amazonie, qui est touché par la bêtise humaine ? Elle abrite près d'un cinquième des ressources en eau douce mondiale, un dixième de la faune connue et plus de 40 000 espèces végétales. Depuis 1970, l'Amazonie a perdu 18% de sa surface, soit deux fois la France. Et tout ça à cause d'une exploitation, déforestation massive en partie illégale. Selon les projections du WWF, 55% de la plus grande forêt tropicale au monde aura disparu à l'horizon 2030 si son exploitation se maintient au rythme actuel. Et nous, occidentaux, restons là, les bras croisés, à attendre que notre planète cesse de respirer. Je pourrais aussi vous parler des catastrophes nucléaires, comme Tchernobyl, qui pourrait avoir tué plus de 4000 personnes selon l'OMS, et propagé dans l'atmosphère l'équivalent radioactif de 400 fois la bombe d'Hiroshima. Ou encore la catastrophe plus récente de Fukushima, dont les suites n'étaient toujours pas stabilisées en août 2013, soit deux ans après l'accident. Et ces incidents risquent de se multiplier si l'homme n'arrête pas sa surconsommation et son gaspillage incessant. Mais lorsque cela se reproduira, les dégâts seront énormes et irréparables. Car l'homme ne cesse de vouloir être performant et productif et veut toujours créer et innover. Mais ne croyez-vous pas que cette volonté de dompter la nature ne se retournera pas contre lui ? Et que tôt ou tard, cette planète que nous avons envahie et polluée depuis tant d'années ne sera plus qu'une poubelle radioactive ? Que penser aussi des OGM ? Ces organismes génétiquement modifiés sont un danger évident pour l'environnement par la contamination des espèces non transgéniques, mais certainement aussi pour l'homme. Et tout ça pour toujours produire plus, plus et encore plus, pour une nourriture que les pays développés gaspillent et consomment excessivement. Ces véritables plantes de compétition entraînent des réductions de la biodiversité à cause de leur agressivité. Certaines semences ont même été brevetées par les firmes, comme les semences Monsanto. Vous vous imaginez ce que l'homme est capable de faire ? Se prétendre propriétaire des créations de la nature ? Je voudrais terminer en évoquant le sort des abeilles. Depuis 1970, certains apiculteurs ont remarqué la baisse de la population d'abeilles domestiques. Cette surmortalité est causée par les pesticides qu'utilisent la plupart des agriculteurs et qui se répandent dans l'environnement et dans les plantes que butinent les abeilles. C'est en tout cas ce que pense l'Union nationale des associations familiales. Selon elle, les pesticides sont responsables d'intoxication aiguë et chronique des abeilles. Comme pour l'homme, les abeilles peuvent, en contact avec des produits dangereux, subir des intoxications. Ce ne sont que des abeilles, me diriez-vous. Mais elles sont si importantes à notre survie à tous. Elles sont surtout connues pour les produits de la ruche, miel, pollen, cire, etc. Mais leur rôle de pollinisatrice est beaucoup plus rarement mis en avant. Il faut pourtant savoir que chez bon nombre d'entre elles, la qualité de transfert de pollen d'une fleur à l'autre est un facteur aussi important que les éléments nutritifs, l'eau ou encore la chaleur. Et si les abeilles viennent à disparaître, qui pollinisera ces plantes ? Voilà une chose que l'homme tout-puissant n'est pas capable de faire. Mesdames et messieurs, ce que nous avons oublié, c'est que c'est l'homme qui appartient à la terre, et non la terre qui appartient à l'homme. Faisons en sorte de ne pas nous donner raison à Richard Fleischer, qui dans son film « Soleil vert », sorti en 1973, exposait de manière futuriste sa vision du monde en 2022. Une terre qui a épuisé toutes ses ressources. Quelques rares familles riches qui pourraient encore accéder à la vraie nourriture. Et une industrie qui recyclerait les hommes. Alors luttons, tant qu'il est encore temps, pour aider la planète et pour prévenir d'un danger imminent les générations de demain.
Belle plaidoirie, n'est-ce pas ? Jean-Louis, est-ce que tu peux réagir ?
Oui, c'est une très belle plaidoirie qui pose vraiment tous les problèmes. C'est toujours très émouvant d'entendre des jeunes parler de ces problèmes-là. C'est vrai qu'il faut continuer à alerter. C'est vrai aussi qu'il faut, dès que possible, commencer à changer aussi. Voilà.
Bon, alors, une question qui peut se poser, pourquoi la Ligue des droits de l'homme s'intéresse-t-elle actuellement à ces questions d'environnement, d'écologie ? Ça ne paraît pas, a priori, être le champ privilégié d'action de la Ligue des droits de l'homme. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qui fait que, eh bien, la Ligue des droits de l'homme considère que ces questions d'environnement, de préservation de la planète, etc., font partie des droits, font partie de l'action de la Ligue des droits de l'homme.
Oui, bien sûr. C'est vrai que la Ligue, qui est née au moment de l'affaire Dreyfus, s'intéresse et s'est intéressée jusqu'ici davantage aux droits civils et politiques qu'à d'autres droits, même si on considère aujourd'hui que l'ensemble des droits humains est indivisible. Les droits environnementaux, après les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, font partie des droits culturels et environnementaux, qui est un peu la dernière génération de droits. Et la Ligue s'est intéressée depuis assez longtemps à ces problèmes-là, sans être spécialiste ni de l'écologie, et sans avoir des positions tranchées sur tous les problèmes qui se posent aujourd'hui. L'objectif de la Ligue est bien de faire en sorte que les mécanismes démocratiques soient en marche quand on parle et quand on discute de ces questions-là qui effectivement intéressent tout le monde. Donc c'est lors de son congrès en 2008 et lors de son université d'automne en novembre 2008 que la Ligue a décidé de lancer une action dans ce domaine et donc de créer le groupe de travail que j'anime au niveau national sur l'environnement et le développement durable.
Alors, peut-être faudrait-il, à ce stade de l'émission, préciser un certain nombre de termes, parce qu'on parle de développement durable, on parle d'écologie, on parle de transition énergétique, de transition écologique, etc. Est-ce que tu peux nous dire, nous donner quelques explications ou quelques références sur ces terminologies qui sont, pour un certain nombre d'entre elles, à l'origine des terminologies anglo-saxonnes qui ont été traduites ensuite en français dans les autres langues. Oui. Alors parce que quelquefois quand il y a des traductions, on n'a pas toujours le même sens, on oublie l'origine.
Alors le terme de développement durable, c'est vrai que c'est un terme qui d'abord fait débat au sein de la société française. Certaines mouvances politiques et de la société civile ne l'accepte pas parce que c'est un oxymore, c'est contradictoire. Si on veut de la durabilité, ben il faut plus se développer. Et donc tout autour de ces questions-là, il y a beaucoup de débats. La Ligue considère que le terme développement durable est toujours un terme d'actualité. On n'est pas là pour réinventer les mots. On est là pour se les réapproprier éventuellement. Et donc le terme de développement durable, il est né en 1987 dans un rapport qui était un rapport de compromis fait à l'ONU par Madame Brundtland, qui était le premier ministre finlandais, norvégien, pardon, de l'époque, et qui a fait un rapport qui s'appelle « Notre avenir à tous ». Et dans ce rapport, elle essaie de marier un peu les exigences des pays développés qui voudraient bien un peu calmer la machine économique dont la jeune fille a parlé tout à l'heure en parlant de l'excès de consommation et de production, et en même temps préserver le droit au développement justement des moins développés, en particulier de ce qu'on appelle les 77 pays, les moins développés, qui n'ont qu'une envie, et on ne peut pas le leur reprocher, qui est de vivre mieux, de manger à leur faim, d'avoir des voitures, de les utiliser et de se rapprocher du niveau de vie occidental. Donc le développement durable ou le développement soutenable, puisque c'est une traduction effectivement de l'anglais sustainable development, le développement durable, c'est deux développements pour les pays pauvres et pour tout le monde, la soutenabilité, la durabilité, c'est-à-dire la maîtrise de notre production et de notre consommation et calmer un peu la machine.
Oui, mais enfin, j'allais dire, sur ce mot, la développement durable, c'est vrai que le mot a été un peu perverti, si tu veux, par les marchands, quand même. Enfin, je sais pas, quand on voit, par exemple, le site Total, il ne parle que développement durable. Or, c'est quand même les plus gros pollueurs de la planète. Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, si tu veux? C'est que, je veux dire, ce mot-là, aujourd'hui, il y a des gens qui, ça leur hérisse le poil un peu, hein, parce qu'ils disent...
Bien sûr, je comprends tout à fait ça. Et c'est vrai que, bon, tu cites le nom d'une grande entreprise française pétrolière qui n'allait pas à son premier à ses premières actions dans ce style. J'ai participé au tout début de la conférence de Monsieur Stern qui était patron de la chaire de développement durable au Collège de France. Et la première chose qu'on voyait, on disait cette chaire a été financée par Total. Bon, donc les entreprises, évidemment, et il serait, je dirais, naïf de croire qu'elles vont abandonner le navire qui leur donne quand même beaucoup d'argent. Donc elles essaient de continuer à vivre, de se développer, tout en donnant quelques gages au niveau du développement durable. Alors, ça se traduit effectivement par des sites ou des rapports développement durable qui sont magnifiques, et ça se rapproche de ce qu'on appelle, en anglais bien sûr, le greenwashing, et qu'on a traduit en français, qui est un très beau mot, mais qui ne contient pas le mot vert, qui est éco-blanchiment. Donc c'est assez intéressant, et à la fois c'est pas tout à fait... L'idée du greenwashing, c'est bien que on ne fait rien, mais on fait comme si on faisait quelque chose, et on met des petits oiseaux et des belles fleurs des champs sur ces rapports, alors qu'on exploite les schistes bitumineux d'Alaska. Voilà, c'est un peu ça, et c'est clair qu'il faut lutter contre ça. Il y a des tas d'ONG qui donnent des prix, le prix Pinocchio en particulier, sur le greenwashing, l'éco-blanchiment le plus ridicule de l'année. Hein? Voilà.
Lorsque on écoute cette plaidoirie qui est faite par une jeune élève de seconde, on est quand même, notre génération se sent un peu interpellée par ça, parce que on se retrouve, nous on a été à fond dans la société de consommation, et tout d'un coup on leur dit, attendez les jeunes, c'est fini ça, il va falloir penser ça différemment, il va falloir que vous serrez la ceinture un peu. Mais est-ce qu'on est légitime? Et on a du mal à être légitime dans cette parole, qu'est-ce que tu en penses là?
Oui, alors tout à fait, on l'a bien vu dans la question qui a été posée hier lors de la conférence, les jeunes qui disent, j'allais dire un peu comme les pays en voie de développement, qui disent, mais attendez, pourquoi nous? Alors qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau de satisfaction de nos besoins, besoins qui sont d'ailleurs largement manipulés par le marketing et d'autres aspects qui travaillent sur nos émotions, sur nos passions et ainsi de suite. Donc, même si on n'est pas totalement libre, le libre arbitre, il existe jusqu'à un certain point, on n'est pas totalement libre de déterminer nos besoins, ils sont largement déterminés par la société dans laquelle on vit, les émissions qu'on écoute. Il est clair que les jeunes sont tout à fait légitimes à dire nous, on veut une part du gâteau et arrêter de nous embêter. Maintenant, je considère que, et je ne suis pas le seul, puisque on sait quand même, il faut croire ce que l'on sait, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer que ce qu'on dit, ce que notre génération dit, enfin, c'est quelque chose pour empêcher les gens de profiter au maximum de la société de consommation. Quand on parle du climat, on sait qu'on a, et on ne fait pas d'efforts depuis 10 ans, enfin, on parlait de 73, je crois que les 73 est une année effectivement où il y avait énormément de choses, on a parlé de René Dumont, mais d'autres aussi, qui avaient quasiment tout dit, on sait ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. Donc je pense que les jeunes vont progressivement se rendre compte, je crois qu'ils ont déjà une attitude différente par rapport à la carrière, attitude différente de ce qui était celle de leurs parents et de leurs grands-parents, et peut-être qu'ils vont souhaiter vivre une vie plus équilibrée, moins carriériste, moins consommatrice, c'est ce qu'il faut espérer. Mais là, c'est vrai qu'il y a un travail à faire, et il faut leur laisser aussi l'occasion de se coltiner aux responsabilités. Donc il faut que nous lâchions, je parle au nom des gens qui ont plus de 60 ans, que nous lâchions un peu les rênes politiques pour le donner aux plus jeunes, qui se rendront compte des choses à faire et qui arriveront peut-être mieux que nous à motiver les gens de leur génération à démarrer le changement.
Oui, mais alors dans une société où finalement la boussole c'est la croissance, hein, où on est dans le dogme de la croissance, est-ce que justement on ne parle que de cela, toutes les réponses aux problèmes sociaux sont liées la croissance qui est ou qui n'est pas. Alors est-ce que justement cette recherche de la croissance permanente cette course à la croissance, et puis aussi, enfin, on verra plus tard par rapport au profit, est-ce que c'est compatible justement avec des mesures, avec un comportement qui prendrait davantage en compte ces problèmes de développement durable, ces problèmes de préservation de la planète?
Alors, c'est un sujet difficile. Je vous donnerai dans quelques secondes ma position personnelle, qui n'est pas la position consolidée de la Ligue au niveau national. Lundi prochain, le 3 juin, on a une réunion des groupes de travail économie, Europe et développement durable, pour un peu discuter de tout ça, comme on a eu l'an dernier des réunions autour des indicateurs alternatifs au PIB qui, selon nous, ne mesure pas correctement l'état de bonheur d'une population. Alors, c'est vrai qu'on cherche des marges de manœuvre financières, largement financières, ne serait-ce que pour financer la transition énergétique, pour rénover les logements. Donc on parle de centaines de milliards, c'est évident, et ces marges de manœuvre ne sont plus dans les budgets de l'État, surtout depuis que une partie a servi à recapitaliser les banques au niveau mondial. Donc c'est vrai qu'il y a on a ici un problème de financement, et donc les dirigeants de nos pays, à droite comme à gauche, disent ben écoutez, il faut d'abord retrouver de la croissance pour pouvoir se lancer dans le développement durable, c'est-à-dire peut-être freiner un peu la croissance de nos économies. Donc il y a une ambiguïté, il y a un côté un peu kafkaïen dans cette proposition. Je crois que justement il ne faut pas ça. Il faut essayer de ne pas s'arrêter à ça. Et il y a des moyens de financement des actions à prendre qui devraient être trouvées, en particulier au niveau de groupes de pays comme l'Europe et d'autres. Maintenant, sur la démesure de l'économie, c'est évident que depuis en particulier 20-30 ans, nous ne sommes plus un homo sapiens, nous sommes un homo economicus, hein, donc largement unidimensionnel. Nous ne pensons qu'à ça, le marché est partout, et il y a même des gens qui cherchent à faire en sorte que le marché soit l'unique moyen de créer les compromis dans tous les domaines. Et l'idée qu'il suffira d'internaliser, alors ça c'est un terme technique, d'internaliser les externalités négatives, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas tenu compte de la pollution de l'eau, de la pollution de l'air, ainsi de suite, qu'il suffirait d'internaliser ça et de donner un prix aux forêts tropicales dont parlait la jeune fille tout à l'heure, que ça suffirait pour rééquilibrer tout ça. Je pense, mais encore une fois, ce n'est pas une position définitive de la Ligue, qui débat beaucoup sur ces questions. Je pense que c'est illusoire et que quelque part le capitalisme devra largement bouger. D'ailleurs, si on écoute des gens, des gourous du management comme Michael Porter, qui a fait des émissions sur YouTube ou dans des émissions en particulier de TED, il voit bien que le capitalisme aura besoin de se réinventer pour ne pas être dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, complètement mis à l'index par les jeunes générations qui se rendront compte que c'est quand même le principal responsable de l'état où nous sommes. Maintenant, bien sûr, en face de ça, il y a les éternels optimistes, hein, qui considèrent qu'au contraire, plus on innovera, plus on trouvera les solutions aux problèmes qu'on a posés. Personnellement, je considère que les dégâts du progrès, c'est des choses sur lesquelles nous devons travailler, sur lesquelles nous devons nous exprimer démocratiquement, choisir également vers où va la science, et ne pas laisser justement notre futur aller comme ça, comme une barque sans boussole, au nom de celle du seul intérêt économique.
Voilà, mais justement, alors comment les citoyens, parce que bon, la Ligue des droits de l'homme, c'est quand même la parole des citoyens, c'est l'engagement des citoyens. Comment aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même un grand déficit démocratique. Comment aujourd'hui donner aux citoyens la parole, comment les faire réfléchir sur toutes ces questions, comment lancer des grands débats, notamment sur la question du gaz de schiste, par exemple, ou sur le nucléaire, ou sur bien d'autres sujets. Est-ce que on a des pistes pour faire en sorte qu'il y ait davantage de débats, que les citoyens soient impliqués, parce que il faut aussi la prise de conscience, c'est une prise de conscience des politiques, mais c'est aussi une prise de conscience des citoyens. Alors ça se fait par l'éducation, mais je crois que ça se fait aussi par le débat, parce que si on n'est pas tous, le plus grand nombre n'est pas conscient de ces problématiques, c'est à ce moment-là le marché, le profit qui domine, on voit bien aujourd'hui qui domine le politique et qui domine bien entendu la parole des citoyens et l'humain là-dedans, bien sûr.
Oui, je crois que si l'on veut travailler sur l'avenir, il faut absolument faire confiance à la société civile. Je crois qu'elle n'a pas eu jusqu'à maintenant la parole. On a été dans un système, je parle de la France et plus globalement de l'Europe et des pays développés, dans un système de démocratie représentative qui ne donne pas assez de place à la société civile. Heureusement que celle-ci, forte de beaucoup d'associations, de beaucoup d'ONG, forte aussi des nouvelles technologies comme Internet et de la capacité que cette technologie a de faire passer des messages et de rassembler des gens autour de causes qu'il faut bien sûr attentivement regarder, mais qui sont souvent intéressantes, peut donner un nouvel élan à la démocratie. Et vous savez bien qu'elle en a quand même besoin pour donner du sens et la revivifier. Alors on parle beaucoup de démocratie participative, qui ne fait pas l'unanimité auprès des gens qui sont des politiques qui aiment bien qu'on les élise une fois et qu'ils soient tranquilles pendant 5 ou 10 ans. Ça ne fait pas l'unanimité. Il y a des outils de démocratie participative qui existent aujourd'hui. Je pense à la conférence de citoyens, je pense à la Commission nationale de débat public. Alors, c'est vrai que, comme le premier grand problème qui s'est posé à l'humanité, c'est le problème du nucléaire, et que le nucléaire en France a des origines militaires, la question de la transparence et de l'ouverture se pose, parce que l'armée de la défense n'est pas considérée comme spécialement une organisation ouverte. Donc là-dessus, il y a eu du secret. Maintenant, si je prends l'exemple de... Il y a eu des débats, je pense au débat de Bure. Alors certains diront que ça a été complètement confisqué. Je crois qu'il y a eu des débats confisqués.
Un de mots pour les auditeurs, Bure.
Alors Bure, c'est l'endroit où nous allons enfouir à 500 mètres sous terre des fûts contenant des matériaux nucléaires radioactifs, hautement radioactifs ou moyennement radioactifs. La technologie semble tout à fait au point. Simplement, l'acceptation sociale, malgré l'argent qui a été donné aux communes environnantes, ne va pas de soi, et il est tout à fait normal que les citoyens, au niveau national, et pas uniquement au niveau local, se posent des questions là-dessus et essaient d'infléchir les choses. J'ai compris, d'ailleurs, en lisant des articles sur le sujet récemment, que la Commission nationale de débat public avait proposé à l'ANDRA, qui est le maître d'ouvrage de cette affaire, des changements dans la façon de mener la partie industrielle et le côté réversible de l'opération.
T'as dit que tu veux dire par côté réversible, tu parles de... voilà, tu nous expliques un peu ce qu'est
le
côté.
Alors le côté réversible, c'est la capacité de nos successeurs à pouvoir, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, redescendre et sortir éventuellement des choses, soit qui commenceraient à fuir, soit parce qu'on aurait trouvé effectivement une technologie bien nouvelle qui permettrait de gérer cela avec moins de danger, quoi. Parce qu'effectivement, enfouir à 500 mètres sous terre des déchets qui ont une durée de vie de 100 000 ans, ça ne rassure pas. Même si les robots automatiques qui vont gérer ça auront des durées de vie de quelques dizaines d'années. Donc le côté réversible est quand même quelque chose qui me paraît, même si je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, qui me paraît intéressant. Et qui vient de la démocratie participative.
Moi, je voulais revenir un peu au sujet de la croissance, parce que tu sais, aujourd'hui, on nous dit, voilà, il faut qu'on consomme, il faut relancer la consommation pour faire la croissance et pour créer de l'emploi. Et c'est-à-dire qu'on a un triptyque là qui se tient un peu, et consommation, croissance, emploi. Et est-ce que sans croissance, il y a des gens qui disent que sans croissance, on peut créer de l'emploi. C'est-à-dire que sans croissance, avec une croissance à zéro, parce que peut-être par relocalisation de l'emploi, peut-être, et je ne sais pas ce que tu penses par rapport à ça.
Alors, c'est un sujet, qui est très débattu. Il y a eu un rapport, il y a 4 ou 5 ans, un rapport anglais, je crois, qui s'appelait « Prospérité sans croissance », qui est également très débattu. Ça dépend comment on appelle ce qu'on appelle la prospérité. Alors, la croissance, déjà, sera quand même limitée, à moins qu'on trouve des artifices comptables. Mais à partir du moment où on dit « il n'y a plus de pétrole », les ressources naturelles sont limitées, il faudra donc recycler, on pourra toujours, et il faudra toujours, pour 9 milliards à 10 milliards d'individus dans les années 2050, il faudra de l'industrie. L'idée la décroissance ou la non-croissance ou l'état de la transition écologique, l'état final de la transition écologique serait réduit à ce que j'ai appelé une économie potagère, c'est un peu illusoire. Il y aura une économie largement industrielle pour nourrir 9 milliards de personnes. En revanche, cette économie devrait être davantage circulaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on produit devra servir à produire la génération d'après au niveau des métaux, au niveau de tout ce qu'on produit. Circulaire, probablement une économie de fonctionnalité, c'est-à-dire où on utilisera éventuellement la perceuse du voisin plutôt que de s'acheter une perceuse qu'on utilise 3 fois par an. Hein. Alors l'exemple de la perceuse n'est peut-être pas le bon, il y a d'autres économies de fonctionnalité qu'on peut faire. Mais là aussi, il faudra sortir de notre sens de la propriété. Hein. C'est-à-dire que l'idée de posséder quelque chose... Il faudra qu'on s'en sorte un peu. L'idée, c'est bien d'avoir la fonctionnalité et non pas la possession. Donc avec ça, on peut essayer de faire quelque chose. La relocalisation dont tu parlais, en particulier au niveau des choses qui voyagent. Il est ridicule de faire voyager des asperges plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, peut-être en tout cas plusieurs milliers de kilomètres. Peut-être faudrait-il faire autrement. Et en ce qui concerne les pays non développés, les pays en cours de développement, il faudra aussi... qu'ils sortent probablement de cette théorie des avantages comparatifs, si je me souviens bien, à l'économiste David Ricardo, qui leur a dit, écoutez, vous êtes en Amérique centrale, et vous devez faire du café, et avec votre café, vous allez pouvoir vous payer tout, et importer les patates, Bon, je pense qu'il y a la nécessité, pour chaque pays, d'avoir une économie de proximité, qui permettra d'avoir un minimum de choses... d'économie vivrière et qui probablement nous obligera à repenser aux saisons, c'est-à-dire à ne pas vouloir manger des abricots au mois de janvier parce qu'on a complètement là-dessus, on mange des fraises quasiment tout le temps hein, à des prix qui varient mais enfin pas énormément et pourtant ces fraises qui viennent de très loin participent largement à la pollution de notre atmosphère et au réchauffement climatique. Bien sûr. D'ailleurs, il y a des entreprises qui, en particulier je pense à une avec qui nous travaillons, qui s'appelle Éthique sur Étiquette, qui demandent que l'étiquette montre le contenu CO2 dedans et combien de milliers de kilomètres elle a fait pour arriver sur votre table. Je pense que c'est important, je pense que ça fait partie de la transparence qu'on demande à la société et aux entreprises.
Est-ce qu'il ne faudra pas aussi puisqu'on parlait de croissance, etc., est-ce qu'il ne faudra pas aussi revoir la conception du travail, le partage du travail, parce qu'on est sur ces thématiques, croissance pour lutter contre le chômage, chômage, personnes en difficulté. Donc, est-ce qu'il ne faudra pas aussi revoir notre système économique et surtout notre système de production et notre relation au travail comment permettre aux gens de vivre en travaillant moins, etc. Est-ce que tu penses que cela est possible? Est-ce que les réflexions sont avancées dans ce domaine? Bon, on a essayé de le faire avec les 35 heures, ça n'a pas été le succès escompté en termes de création d'emplois. Qu'en penses-tu?
Alors, c'est un problème qui est politiquement très sensible. Un politique qui voudrait se faire élire aujourd'hui et qui dirait « je ne crois pas à la croissance, je ne crois pas au plein emploi », c'est suicidaire. C'est totalement suicidaire. Donc, c'est impossible que les politiques...
Bon,
donc, je vais vous donner mon avis personnel, qui n'est encore une fois pas l'avis de consolider de la Ligue au niveau national. Je pense que la transition écologique peut relocaliser certains emplois sans faire du nationalisme et se replier sur notre pays. Là n'est pas la question. Peut recréer des emplois locaux au niveau de l'agriculture, au niveau de la production. Je ne crois pas personnellement au plein emploi dans le futur parce que les machines seront de plus en plus productives et qu'on n'aura pas besoin des hommes pour produire. On aura moins besoin des hommes pour produire. En revanche, il faudra démystifier le travail qui est aujourd'hui nécessaire d'abord pour gagner sa vie et pour manger et pour se nourrir, enfin pour se nourrir et pour habiter un logement décent, mais qui participe aussi à l'intégration sociale. C'est-à-dire que le travail est un facteur important de respectabilité et d'intégration sociale. Je pense qu'il faudra se sortir là aussi de cette chose, se dire que, mais on parle de plusieurs dans plusieurs générations, se dire que finalement l'avenir, ce sera que chaque être qui naît a droit à la vie et donc à de l'argent qui lui permettra de vivre et que cette personne devra donner dans sa vie un certain nombre de dizaines d'années à la société pour que la terre continue à vivre et que la société continue à vivre. Dire que le travail restera la valeur principale, personnellement, je n'y crois pas. Lisez les livres de Dominique Méda là-dessus. Il faut sortir du mythe du travail. Je pense qu'il faudrait aller quasiment au-delà des 35 heures, oui.
Et donc, nous sommes au lendemain de l'élection du Parlement européen. Est-ce que, au niveau européen, on se préoccupe suffisamment de ces questions-là, de ces questions d'écologie? Est-ce que quels sont les freins et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait davantage d'argent qui soit mis justement pour la transition écologique?
Oui, alors l'Europe est plutôt pour l'écologie est plutôt une chance. Elle l'a été en tout cas jusqu'ici. Même s'il y a dans l'Europe des gens qui freinent, c'est vrai que le patronat allemand n'est pas très interventionniste et n'a pas envie que des lois supplémentaires sur la transparence, sur la responsabilité des maisons mères viennent empêcher leurs entreprises d'exporter. C'est vrai que la Pologne est largement dépendante du charbon et n'a pas trouvé mieux lorsque la conférence des partis sur le climat s'est organisée l'an dernier en décembre chez elle, n'a pas trouvé mieux que de mettre en face une conférence sur le charbon. Donc il y a quelques pays qui, l'Angleterre n'est pas très très en avance. En revanche, le Parlement européen jusqu'ici a été plutôt dans le bon sens. D'ailleurs, il y a un projet de loi sur la transparence des entreprises qui nous paraît, au niveau d'organismes dont nous faisons partie, dont la Ligue fait partie en France, qui s'appelle le Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises, qui nous paraît tout à fait acceptable et tout à fait dans les normes. Donc je crois que l'Europe, à la fois par la dimension qu'elle a et ce qu'elle permet, est une chance. Voilà, à nous de nous appuyer sur, là aussi, les sociétés civiles, la société civile européenne, qui bouge beaucoup, et qui essaye de convaincre à la fois la Commission, mais surtout les gens du Parlement européen, qu'il faut aller dans ce sens-là.
Oui, alors nous touchons à la fin de l'émission. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'urgence, quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre, mais de façon urgente, ou les mesures essentielles, quoi, l'axe essentiel vers lequel il faudrait aller dans les années à venir, peut-être pas tout de suite, mais dans l'avenir, proche ou plus lointain.
Alors, oui, enfin, au niveau des actions que la Ligue va porter, nous sommes surtout focalisés dans les deux ou trois dernières années sur les entreprises et la transcription dans le droit dur des questions de transparence et des questions de responsabilité mère filiale en particulier pour éviter des choses comme le drame du Rana Plaza dont on a fêté le triste anniversaire il y a quelques mois. Mais très globalement au niveau de l'environnement et du développement durable, on sait ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut d'abord croire ce que l'on sait. Hein, la science, même si elle n'est pas parfaite, elle avance par preuve, et il faut lutter contre le déni avec beaucoup de pédagogie. Il faut bien sûr prendre en compte les finitudes de notre système, de notre écosystème naturel, adapter nos comportements à ces finitudes, et alors que cela se traduise par un mouvement vers la sobriété heureuse dont parle Pierre Rabhi, irait pour moi dans le bon sens. Il faut redonner à l'économie sa place d'outil pour habiter la cité et lutter contre ses dérives financières et industrielles. Il faut s'engager résolument dans l'économie circulaire et l'économie de fonctionnalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut probablement reprendre au niveau international les travaux sur les communs pour fixer des limites à la marchandisation et à la brevetabilité de la vie, des mers, des pôles, des fonds marins. Il faut redonner à chacun et à tous l'envie du collectif pour lutter contre la dégradation des solidarités et puis redonner un sens à la vie, sens qui se perd un peu aujourd'hui parce que les grands systèmes ont perdu de leur force, quoi. Il faut inventer probablement de nouvelles formes de débat démocratique, on l'a vu tout à l'heure, pour traiter les controverses scientifiques et avec tous les acteurs concernés, les citoyens, la société civile, les entreprises, bon. Voilà. Mais il faut faire tout ça dans une atmosphère démocratique, et la Ligue est très attentive à cette question-là et ne pas se laisser confisquer le débat par une avant-garde autoproclamée, voilà, qui voudrait penser à notre place.
Bon, eh bien, écoute, un grand merci, Jean-Louis, pour ta participation à la fois à la conférence à Villefranche et à cette émission. Merci encore. Bon, et maintenant, un peu d'humour avec Bio de Pascal Parizeau. Et ensuite, et pour terminer, Nolwenn, une jeune lycéenne de Raymond Savignac, nous alerte sur le continent de plastique. Sa plaidoirie, du plastique pour nourriture.
Mes parents sont bio, 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 ne mangent que du bio, 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 ne boivent que du bio, 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 ne jurent que par bio. Chez nous, tout est bio, 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 bio. Le sel, il est bio, 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 bio. La poêle, elle est bio, 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 bio. Y'a rien qui est pas bio. Mon père, c'est bioman. Et ma mère, ben, c'est sa femme. Ensemble, ils sont bio, 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 bio. Seulement voilà, en plus de ça, ils cuisinent tout à la vapeur, y'a même plus un morceau de beurre. Et moi je rêve d'un hamburger. Mais mes parents sont bio, 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 n'achètent que du bio, 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 ne parlent que de bio, 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 ne prient que pour bio. Leurs amis sont bio, 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 bio. Quand ils se voient bio, 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 c'est à celui qui bio, 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 sera le plus bio. Mon père c'est
bioman,
marié à biowoman. Ensemble ils sont bio, 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 bio. On mange des blettes ou bien des bêtes,
c'est la même chose.
Soit disant que c'est plein de vite. Vitamine. Moi j'irais bien en prendre ailleurs, par exemple dans un hamburger. Mais
à la maison. Bio, 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 même les rats sont bio, 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 même les klaxons. Bio, 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 tout le monde il est bio. Tout le monde il est bio. Tout le monde il est bio. Tout le monde il est bio.
Lorsque l'on pense à l'océan Pacifique, de belles images nous viennent à l'esprit. Le bleu profond de son eau, ses poissons multicolores, ses magnifiques coraux. Les îles paradisiaques qui le composent nous font rêver. Ce sont d'ailleurs des sites touristiques très prisés. Mais il existe une autre réalité très différente. Une réalité que l'on ne soupçonne pas. Une île cauchemardesque se trouve dans cet océan. Un lieu inimaginable où l'eau est saturée d'immondices. Alors, mesdames et messieurs, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous lancer une alerte de la plus grande importance sur le 7e continent de plastique. Il s'agit d'une zone située dans le nord-est. Il s'agit d'une zone située dans le nord-est du Pacifique, entre la Californie et Hawaï. Là-bas, les nombreux déchets provenant des navires et des littoraux s'accumulent. Cette plaque de déchets a été découverte en 1997 par Charles Moore. Sa taille aurait triplé depuis les années 90. À présent, écoutez bien. Je vais vous révéler ce que l'homme a fait. Elle s'étend sur une superficie qui correspond à un tiers de celle de l'Europe ou bien six fois celle de la France. Et elle pèse au total 3,43 millions de tonnes. Vous trouvez cela impressionnant que ces déchets se soient tous regroupés au même endroit? Ce sont en fait les courants qui dispersent ces déchets sur deux zones appelées plaques de déchets du Pacifique Est et plaques de déchets du Pacifique Ouest. À elles deux, elles forment ce nouveau continent de plastique. Vous connaissez très bien le plastique. Cette matière indispensable que l'on utilise au quotidien et qui peut mettre 1000 ans pour se décomposer. Eh bien, sachez que 10% de sa production se retrouve dans les océans et qu'il constitue à lui seul 90% des déchets flottant dans les océans. Imaginez qu'à certains endroits dans l'eau de mer, la présence du plastique est jusqu'à 10 fois supérieure à celle du plancton. Vous connaissez aussi le plancton. Il s'agit de l'ensemble des végétaux et animaux aquatiques qui dérivent au gré des courants. Généralement microscopiques ou de petite taille, ils sont des milliards de milliards d'individus qui peuplent nos océans, mers, lacs, rivières et ruisseaux. Mais désormais, on l'appelle le plancton plastique, car le plastique étouffe la nature. C'est révoltant, ne trouvez-vous pas? Et pourtant, il est écrit dans l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de la Terre, « Tous les êtres humains ont le devoir de respecter la Terre et de vivre en harmonie avec les vies qui la constituent. » À présent, croyez-vous que nous vivons réellement en harmonie avec le monde qui nous entoure? Respectons-nous vraiment la terre qui nous nourrit? Non. Tout ce plastique a des conséquences dramatiques sur la chaîne alimentaire. Même de minuscules morceaux sont avalés par les oiseaux qui mangent les poissons qui eux-mêmes ont mangé du plastique. N'oubliez pas que nous-mêmes sommes au bout de cette chaîne alimentaire. Personne ne conçoit l'idée de manger du plastique. Pourtant, c'est ce qui arrive. N'oublions pas que le plastique nuit à notre santé. Il a même des conséquences catastrophiques sur nous. Le plastique est principalement composé de bisphénol A et de DEHP. Si l'on reste trop longtemps exposé à ces produits, cela peut interagir dans l'équilibre chimique du corps humain et peut augmenter l'agressivité chez tout être vivant. Mais il y a plus grave. Ces deux composants peuvent également diminuer la fertilité chez les hommes. Finalement, nous sommes nous aussi comme les poissons, des victimes de la bêtise humaine. Nous détruisons la faune maritime, mais nous nous détruisons en même temps. De plus, d'après l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Pensez-vous maintenant que nous pouvons parler de sûreté après avoir défiguré notre environnement? Pouvons-nous parler de sûreté si on s'empoisonne en mangeant des aliments que nous avons nous-mêmes contaminés? Non. Mais ce n'est pas fini. Cela touche aussi les animaux. Les déchets les plus gros leur causent des blessures, des infections. Les filets ou les sacs les emprisonnent et les font suffoquer ou se noyer. Mais vous saviez déjà cela. Comme moi, vous avez en tête ces tortues, ces belles tortues, majestueuses. Mais elles meurent à cause de nous. Oui, elles meurent par milliers parce qu'elles ont confondu un sac plastique avec une méduse. Nous les assassinons. En tout, 267 espèces marines sont affectées par ce continent mortel. Je répète, 267 espèces marines, et à cause de nous. Pour remédier à cet insurmontable problème, il existe des solutions. plusieurs missions sont lancées pour lutter contre cette ignoble soupe de plastique, comme l'Algalita Marine Research Foundation, qui se charge de l'étude et la préservation des eaux côtières. Un étudiant néerlandais lance le projet Zéro Plastique dans les océans grâce à des aspirateurs flottants autonomes. Il s'agirait de chalutiers dédiés à la pêche du plastique qui seraient placés dans différents courants marins où se forment des tourbillons géants pour récupérer la quantité de plastique concentrée à cet endroit. Ce serait vraiment un grand progrès si ce projet aboutissait réellement. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous aurez bien compris que je suis triste, déçue, écœurée. Nous ne nous préoccupons de cet amas de déchets seulement 15 ans après sa découverte. Nous sommes responsables de cette immense décharge de plastique. C'est donc notre faute à nous, mesdames et messieurs, nous qui agissons sans réfléchir, sans penser à l'avenir de notre planète. Cette planète qui nous accueille et nous nourrit. Voilà donc comment nous la remercions ? C'est alors à chacun d'entre nous de faire attention à ce si beau monde dans lequel nous vivons pour ne plus avoir de plastique comme nourriture.
C'était Urgence, Urgence pour les droits, Urgence pour les libertés, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, émission diffusée chaque dernier samedi du mois sur CFM Radio, Villefranche. Une émission que vous pourrez réécouter sur le site cfmradio.fr. Excellente journée à tous et rendez-vous le mois prochain avec la Ligue des droits de l'homme, défendant au quotidien les droits, les libertés, la solidarité et refusons l'exclusion.
Il y a des hauts, des bas, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Il y a des hauts, des hauts. Et les cadres sociaux, y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne, y'a les sans-papiers, les sans-sous, les sans-sus, les sans-pitié. Y'a les femmes seules et les prisonniers, y'a les infirmières et les gars du chantier. Y'a les ouf, les ouaves, les toqués-toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici-bas, où y'a des hauts, des bas, des bas et des hauts, de drôles de débats.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme Villefranche et Casville.